Eh bien, ça y est, c'est maintenant l'heure de vérité. Christopher Nolan nous a-t-il trahi ou simplement piégé dans son marketing du film L'Odyssée? Nous allons le savoir tout de suite. Salut à tous, c'est Vincent Plottaï, on se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau film L'Odyssée de 2026. Ça y est, enfin, le voilà. Moult attentes, moult questionnements, moult polémiques. Il s'agit d'un film américano-britannique écrit et réalisé par notre bien-aimé Christopher Nolan, dont je suis l'un des rares sur cette planète à ne pas trop avoir accroché à son Oppenheimer, mais c'est un autre sujet. C'est basé sur le poème épique grec ancien de l'Odyssée d'Homère que j'ai juste ici. Effectivement, j'ai choisi la traduction de Philippe Jacotet, qui est tout à fait agréable à lire, malgré son aspect exotique étrange qui rend l'histoire difficile à comprendre quand on découvre. D'ailleurs, certains l'ont peut-être manqué, mais ma vidéo précédente était consacrée au film 3 de 2004, donc je vous mets le lien en annotation, mais c'était vraiment là pour avoir un point de comparaison avec ce nouveau film de Christopher Nolan. Le budget étant situé autour de 250 millions de dollars, ce qui en fait l'un des films les plus coûteux de toute la carrière de Christopher Nolan, et surtout le premier à avoir été entièrement filmé en IMAX 70 mm, et nous en reparlerons tout à l'heure car j'ai des choses à dire par rapport à ça. Bien avant sa sortie, le film a suscité des critiques qui semblaient inquiètes concernant les choix de décor, de costumes, d'acteurs, qui, pour un film de Nolan, qu'on reproche souvent d'avoir rendu Batman trop réaliste, nous propose ici une vision terre à terre à géométrie variable, ne sachant pas trop sur quel pied danser entre le réalisme et le fantastique. Le ratio like et dislike sur le dernier trailer parle de lui-même. Quoi qu'il en soit, maintenant que j'ai lu l'Odyssée d'Homère, j'ai la garantie que le voyage ne se fait plus seulement sur les flots de la Méditerranée, il se prolonge également sur nos bureaux. C'est ce que fait cet objet, l'Overpan Interstellar de Novium. Il ne sert pas seulement à écrire, c'est une pièce de design unique qui lévite de manière totalement magnétique, sans aucune électricité. Inspiré de l'univers spatial et conçu en aluminium de qualité aéronautique, l'Overpan Interstellar défie la gravité en s'inclinant précisément à un angle de 23,5 degrés, un clin d'œil direct à l'inclinaison de l'axe de la Terre. C'est le genre d'objet fascinant qui change instantanément l'atmosphère d'un espace de travail et qui permet enfin de se détacher des écrans pour retrouver le plaisir concret d'écrire sur du papier. L'emballage, extrêmement soigné, en fait un cadeau mémorable à offrir pour vous ou un de vos proches. Pour les passionnés les plus exigeants, sachez que ce stylo peut être gravé et personnalisé et qu'il existe même une version premium absolue abritant un authentique fragment de météorite incrusté à la main, un objet plus vieux que la Terre elle-même. Plus succinctement, Novium propose également l'Overpan Future, un modèle disponible en version plume et rollerball avec une inclinaison à 60 degrés. C'est le moment idéal pour ajouter une touche d'extraordinaire à votre quotidien ou pour surprendre quelqu'un. En utilisant mon code PLOTTIME, vous bénéficiez de 15% des réductions sur tous les Overpan pendant les 72 prochaines heures et de 10% par la suite. De plus, la livraison est entièrement gratuite vers la France et l'Europe. Scannez le QR code actuellement à l'écran ou cliquez sur le lien présent en toute première ligne de la description pour découvrir l'univers Novium. À présent, voyons si toutes nos craintes sur l'Odyssée de Nolan étaient fondées. Après la guerre de Troie, le célèbre roi d'Ithaque, Ulysse, entame un voyage retour semé d'embûches. Ce périple à haut risque le plonge au cœur de la mythologie où il doit braver des créatures légendaires comme le redoutable cyclope Polyphème, les envoûtantes sirènes ou encore la sorcière Circé qui est partie faire un petit tour au Tircé, avec pour seul objectif de regagner son royaume et de retrouver sa femme Pénélope. Alors j'aimerais faire une petite parenthèse, mais n'hésitez pas à vous abonner. Je dis ça parce que ma chaîne YouTube ne cesse de faire des bons en vue ces derniers mois, et à chaque fois je constate que ces bons en vue proviennent de nouveaux spectateurs qui ne sont pas encore abonnés. Donc si vous découvrez et que vous appréciez mon contenu, eh bien abonnez-vous, voilà, c'est juste un petit clic. C'est gratis et vous aurez la garantie d'avoir mes contenus à l'heure. Parce que pour l'instant, eh bien, je n'ai pas vraiment de raison d'arrêter. Bref, vous ne le savez peut-être pas, mais les influenceurs ont été interdits pour les avant-premières de ce film. Et cette information renforçait davantage les inquiétudes autour du film. Je me rends à ma séance, une fois encore l'un des plus grands cinémas de France, et je constate que ma salle est quand même bien remplie, alors c'est pas complet, mais il y a du beau monde. J'imagine que le film se défendra bien au box-office malgré toutes ses sauces. Il s'est même fait applaudir à la fin, c'est dire. Et lorsque le tout se lance avec les logos d'introduction, j'avoue que j'ai eu des petits papillons dans le ventre, tellement que j'étais curieux de voir à quoi pouvait bien ressembler une bonne fois pour toutes ce film. Ça fait tellement longtemps que je l'attendais, tellement longtemps qu'on s'imaginait des choses par rapport aux polémiques. J'en ai même rêvé la nuit dernière, c'est dire. Je me suis tellement préparé à cette vidéo que ça m'a fait des petits frissons. Je me suis dit, ah ça y est, je vais enfin voir la vérité. Vous savez, on dit souvent que la première image et la dernière image d'un film sont les plus importantes. Et dans ce film, Christopher Nolan a pris la liberté de nous mettre en première image Travis Scott. Histoire de bien poser le ton d'Aldemrage. Deuxième image, Elliot Page. Et là, nous avons la réponse. Bon, nous avons eu la réponse il y a quelques semaines déjà. Le fait qu'il n'incarne pas Achille. Par contre, il incarne Sinon, un personnage inventé pour remplacer Achille. Voilà. Donc, faites ce que vous voulez avec ça. Effectivement, Elliot Page ne joue pas Achille. Par contre, il joue un personnage qui remplace Achille. Alors après... Attention, j'improvise. Voilà, les vlogs comme ça où je filme face cam, j'improvise à moitié. Et c'est possible que je me trompe, que j'ai mal compris un truc, que j'ai mal vu le personnage d'Achille. C'est possible, c'est possible. Mais on reparle en spoiler pour vous expliquer un petit peu le contexte. Et comme je m'y attendais au vu des bandes annonces, effectivement, ce film est bel et bien fidèle au chant d'Homère, à l'Odyssée, en tout cas de ce que j'ai lu. J'ai reconnu à peu près tout dans la bande annonce, le fait de me dire que ok, ça doit être ça. Du chant d'Homère, ça doit être ça aussi, ça doit être tel personnage. Enfin, en tout cas, ça collait à peu près. J'ai vu le film et je peux vous garantir qu'effectivement, c'est vraiment très fidèle. Ils ont retiré plein de passages, ils ont réadapté des choses pour que ça ressemble plus réaliste, mais ça marche bien. Enfin, dans le contexte d'un film, ça marche hyper bien. Le tout a été adapté d'un point de vue beaucoup plus humain, exactement ce qu'avait fait le film 3 à l'époque, à la différence que son côté mystique fantastique est clairement assumé. C'est un film fantastique, avec des créatures, de la magie, mais en gardant une vision beaucoup plus réaliste. C'est ça qui est bien fait. Le problème, c'est ce que j'appelle le fameux réalisme à géométrie variable. Et ne vous en faites pas, on reparlera de toutes les contradictions tout à l'heure concernant la forme. Mais par exemple, on voit la scène du cheval de Troie. Ce qui est tellement bien fait, c'est que les soldats qui se cachent dans le cheval nous placent encore une fois dans la vision humaine, où les personnages restent plusieurs jours coincés dans ce cheval, ils étouffent, ils ne respirent pas, ils chient entre eux. Donc il y a vraiment cette volonté de rendre la chose beaucoup plus terre à terre. Mais toute cette vision se fait désamorcer par la forme, les costumes, les décors, le casting, qui ne fonctionne tellement pas, mais on leur parle tout à l'heure. L'histoire, quant à elle, n'est pas racontée dans l'ordre, une fois encore, exactement comme les chants d'Homère. De plus, c'est narré très intelligemment en fonction de la présence des personnages. Par exemple, lorsque Télémaque rencontre Ménélas, c'est là qu'on voit arriver le flashback de la guerre de Troie, enfin, en tout cas, l'assaut du cheval de Troie. Puis nous voyons d'autres parties de cette séquence, donc le fameux assaut du cheval de Troie, lorsqu'on rencontre le point de vue d'autres personnages. Donc le film ne se veut pas mélanger pour faire style, pour faire expérimental. Non, non, c'est juste intelligemment narré en fonction de la présence des personnages. Et l'autre très, très, très grosse surprise du film, chose qu'on ne ressent absolument pas dans la bande-annonce, c'est clairement un film d'action. C'est vraiment un film d'action. 3 heures d'action. Voilà. Alors évidemment, il y a quelques temps morts, quelques temps avec beaucoup de blabla. Même dans les scènes de dialogue, il y a quand même quelques petites scènes d'action. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais il y a un peu de mouvement entre la mise en scène et le montage pour recréer un peu de dynamisme, pour éviter de trop faire durer les temps morts. Mais c'est clairement un film d'action. Une scène, une action. Alors, pas forcément des scènes épiques, mais ça peut être une épopée. Voilà. Chaque scène possède sa propre péripétie, une fois encore, comme l'œuvre originale. Donc, bah moi je me suis pas fait chier, mais vraiment pas. Les 3 heures, j'ai... comme ça, voilà, c'est passé comme ça. Après attention, j'ai lu l'Odyssée. Le fait d'avoir lu le bouquin m'a sans doute donné l'impression de voir les choses défiler à toute allure. Seule la dernière partie m'a paru un peu plus redondante, voilà. Je dirais qu'il y a peut-être 10 ou 15 minutes en trop, mais pas plus. Franchement, le film 2h30, enfin il dure 2h50, 2h30, 2h35, ça aurait été vraiment parfait. Là je dirais que oui, la scène action de fin, qui est très bonne, quelques minutes en moins, la scène de dialogue de fin, quelques minutes également de moins. Mais globalement, il y a un très bon rythme, et j'imagine, forcément, parce qu'on a coupé des passages parfois importants de l'œuvre initiale, j'imagine que plus tard, il y aurait une version longue, et j'avoue que je serais assez curieux de la voir. Concernant le casting, bon, malheureusement, je n'ai pas changé d'avis là-dessus, c'est le plus gros point noir du film, tellement que le marketing, l'aspect marketing se voit à l'écran, même si tout n'est pas acheté, attention. Mais justement, ce dont je voulais vous parler, c'était l'aspect inclusif. Le film s'est vendu sur ça. Et le côté inclusif est justement partie des choses les plus étonnantes pour un film de Christopher Nolan, qui est très connu pour rendre parfois ses films trop réalistes dans ses grandes lignes, chose qu'on reproche par exemple à la trilogie de The Dark Knight. Et là je me suis dit, c'est con parce que si un film avait absolument besoin d'une couche d'immersion, c'était bien celui-là. C'est tellement bizarre. Donc on nous refourgue un petit peu de marketing en intégrant des Travis Scott pour garantir le fait qu'ils nous fassent leur pub sur leur Instagram, avec une Charlize Theron en Calypso qui reprend son rôle de Charlize Theron, vraiment, elle est là pour faire sa pub Dior. On ne voit que très peu au passage. Zendaya, elle, dans le rôle de Zendaya, pour jouer Athena en fait, qu'on ne voit elle aussi que très peu. D'ailleurs, on reproche au film de s'inspirer du livre féministe, je crois que c'est Emily Wilson. On leur parlera en conclusion, mais je vous le dis direct, si ce film était féministe, on aurait fait une plus grande mise en avant d'Athena, qui ici est présenté plus sous forme de vision. Donc Zendaya, c'est clairement un caméo, une fois encore, pour le marketing, pour qu'elle puisse faire la pub sur son Instagram. C'est un film Astérix, voilà, il n'est même plus qu'Aurel San. Nous avons Tom Holland dans le rôle de... Allez, Télémaque, ça passe. Il est même plutôt bon, enfin bon, il n'y a pas grand chose à reprocher. Matt Damon qui, il faut le dire, crève l'écran, voilà, et là pour le coup, il donne vraiment tout. Sa réputation n'est plus à prouver maintenant. Là, tu sens qu'il joue vraiment sa fin de carrière sur tout ça. Sur son rôle d'Ulysse, il donne tout, son corps, ses tripes, sa voix. Il change de visage, de posture, de jeu. Il est tellement à fond. La scène avec les sirènes, mais il est tellement bon. Anita Way en Pénélope. Y a pas grand chose à reprocher. Elle est hyper convaincante. Robert Pattinson en Thanos, lui aussi, je trouvais convaincant. Bien que son costume noir de Batman laisse à désirer. Donc ça, c'était la partie positive, entachée par le côté marketing. Puis on a tout le reste. On a l'hôpital Yongo en Helen. Je vais pas enfoncer les portes ouvertes. C'est évidemment pour provoquer qu'ils l'ont choisi. En insistant bien sur son visage, le fait que c'est ce visage qui a envoyé 1000 navires. Voilà. De plus, je suis désolé, c'est une très bonne actrice, mais là pour le coup, je la trouve pas à fond. Avec ça, on ne la voit pas beaucoup, ce qui fait que n'importe qui aurait pu prendre ce rôle, donc c'était vraiment pour provoquer. De plus, elle joue également le rôle de sa propre sœur Clytemnestre, qui n'est pas censée être sa sœur jumelle, donc ça n'a aucun sens, si ce n'est créer la confusion pour les gens qui connaissent pas très bien l'histoire. Donc voilà, très mauvais choix qui s'accompagne de John Bertal en Ménélas vers son djihadiste, qui est un choix catastrophique, mais qu'est-ce qui leur a passé par la tête, je ne comprends pas. Et c'est ça qui est dommage, c'est que ça contribue au fait que ce film jauge entre les bonnes et les très mauvaises idées. On a de très gros points forts côté casting, mais également de très gros points noirs. Mais par contre, j'aimerais rehausser le niveau en mentionnant un point que peu de gens mentionneront, je pense. C'est John Leguizamo en Humé. Je l'ai trouvé excellent. Ça fait tellement plaisir de voir Nolan mettre en avant cet acteur complètement sous-estimé, qui a passé sa vie à faire des rôles, à jouer des rôles un peu secondaire ou des rôles de films pas très connus. Pour une fois, ça y est, on le met dans un vrai gros film. Certes, il joue un rôle secondaire, mais si quelqu'un devait mériter une récompense pour les Oscars, parce que j'imagine que les Oscars vont noyer ce film dans les nominations, si quelqu'un mérite au moins une nomination, c'est bien ce mec en tant que rôle secondaire. Parce que ce rôle, à voix de secondaire, il est quand même hyper important. Et John Leguizamo se transforme littéralement dans ce film. Il joue à la fois une version jeune et une version vieux. Avec deux jeux d'acteurs différents, il est très bon. Vraiment, récompensez-moi ce mec. Il le mérite, enfin, au moins une récompense pour sa carrière. Ça fait plus plaisir de voir qu'on mette en avant ce genre de mec que des Lupita Nyong'o ou même John Bertal, voilà. Malheureusement, pour le reste, tous les acteurs sont accompagnés de dialogues très modernes, très américanisés. Chose qu'on avait reproché, par exemple, à Gladiator 2. Il y a un moment qui m'a choqué, c'est qu'on a un gars qui nous lâche un « fuck off ». Grèce antique. Le genre de dialogue que tu n'aurais jamais vu dans le 3 de 2004. Côté réel, attention, et là, attention, j'ai eu tort. Je vous le dis direct, j'ai eu tort d'avoir sous-estimé Christopher Nolan, comment j'ai pu. Comment j'ai pu me permettre, parce que je l'ai comparé à d'autres œuvres d'action. J'ai comparé, par exemple, dans ma vidéo précédente, la scène du tourbillon à la scène de Pirates des Caraïbes. Donc, c'est juste pas pareil, en fait. C'est un autre style. Christopher Nolan propose un autre style qui adore rendre ses personnages tout petits dans des plans larges, gigantesques, impressionnants. Donc, si vous voyez ce film en IMAX, vous allez vous en prendre plein la face. On a exactement le même type de montage et de rythme que celui d'Oppenheimer. Et c'est pour ça que je me suis jamais ennuyé. Voilà, ça bouge tout le temps. On passe toujours à la scène suivante avec un rythme de la musique qui ne s'arrête presque jamais. Enfin, c'est même pas une musique, c'est un son d'ambiance. Bien que ce soit parfois un peu moins hyperactif qu'Oppenheimer, et pour le mieux. Parmi les scènes d'action, on a la scène du cyclope qu'on voit dans la bande-annonce. Et franchement, elle en jette pas mal au cinéma. Parce que le réel arrive vraiment à créer une sorte de jeu d'échelle de grandeur. Hélas, le design du cyclope va avec tout le reste qui ne ressemble à rien. Je suis désolé, hein, ce cyclope ne ressemble absolument à rien. Avec le fameux entre-deux, le fameux réalisme à géométrie variable, c'est qu'on veut faire en sorte que le cyclope ressemble aux illustrations de la mythologie grecque. mais pas trop. Voilà, c'est un sujet un petit peu insupportable. Mais quoi qu'il en soit, il est toujours filmé du point de vue humain. Et cette prise de vue est retranscrite dans toutes les scènes d'action, y compris la fameuse scène du sac de Troie, qui est tellement impressionnante. Alors, vous allez me dire que, ouais, mais au vu des images dans la bande-annonce, elle est moins impressionnante que le film 3 2004. Oui, c'est moins spectaculaire. Par contre, ça a beaucoup plus de tension. Vraiment, regardez cette scène au cinéma avec les basses et la musique à fond. C'est vraiment montré du point de vue du camp d'Ulysse. C'est très différent. On a tout un jeu de suspense qui se met en branle avec la porte qui s'ouvre, la musique qui monte avec les tambours. C'est très impressionnant. Même si tout paraît beaucoup moins ambitieux en termes de décor, il y a quand même quelque chose qui se dégage dans cette scène. Lorsque les portes s'ouvrent, on a une sorte de mise en scène très théâtrale avec Agamemnon au milieu de son armée qui est présenté presque comme une sorte de dieu. C'est extrêmement impressionnant. Avec son armure grand-guignolesque qui n'a aucun sens, mais pour une fois, l'armure d'Agamemnon a du sens dans ce que le film veut raconter. Le fait qu'on ne voit jamais son visage, toujours casqué, un petit peu comme une sorte de monstre. Et c'est pareil pour la scène finale qui est l'une des plus impressionnantes du film, mais j'en parlerai en spoiler. Le film a été entièrement tourné en IMAX 70mm, et là par contre, j'ai un gros problème avec ça. L'IMAX, de façon générale, j'ai un gros problème depuis que ça existe, hein, depuis que Nolan l'utilise dans ces films type Inception, The Dark Knight, c'est que quand j'avais acheté le DVD à l'époque, on switchait le format Cinemascope en 16/9, et moi j'avais dit hey, bah c'est pas ça que je veux. Je veux soit le film full 16/9, soit le film full Cinemascope, mais pas un entre-deux bizarre. Le fait qu'on propose tout plein de versions différentes, pour moi je trouve ça vraiment dommage parce que ça prouve que le réel n'a pas vraiment de vision artistique précise. C'est un petit peu comme si un peintre ne savait pas trop sur quelle toile peindre. Est-ce que je peins en portrait? Est-ce que je peins en paysage? Est-ce que non, plus petit, grosse taille? Je sais pas, on va faire un petit peu tout. Ça c'est un gros problème que j'ai avec les jeux de l'IMAX, le fait de proposer différents formats. C'est que finalement, on n'a pas la vraie vision du réalisateur. Donc voilà tout ce qui touche au fond et à la réelle, je n'ai pas grand chose à reprocher. Ce qui me pose problème, en plus de ce casting très marketing, c'est que je trouve que ce film n'a visuellement pas vraiment beaucoup d'identité. Ce qui me ramène à mon propos sur l'IMAX, le fait que le réel ne sache pas vraiment sur quel pied danser avec les différents formats. Et c'est là que je me dis que c'est quand même très rigolo de voir ce décalage entre le côté généreux et gourmand du film 3 de 2004 et ce côté très fade et pauvre de l'Odyssée. Parce que je trouve que ce film manque cruellement d'atmosphère, d'ambiance, si ce n'est quelques scènes, comme la scène des spectres par exemple, là il se dégage quelque chose d'intéressant. Mais pour le reste, j'ai trouvé les costumes et les décors horribles, c'est vraiment presque le Dune du pauvre, je sais pas ce qu'il a voulu faire avec ça. Il y a un gros décalage entre le côté fantasy, presque The Dark Knight, et ce fameux réalisme à géométrie variable. Par exemple, on a une lumière d'intérieur très jaune qui se veut réaliste, encore une fois, avec le fait de vouloir reproduire une lumière intérieure grâce aux torches. Eh bien, réaliste ou non, le rendu est juste très laid. Je vous invite à regarder cette image qui a circulé sur Internet. Malheureusement, cette image est réelle. Oui, ceci est bien les costumes de ce film. Le design est d'un mauvais goût, comme j'en avais jamais vu auparavant dans un film qui se veut péplum. Et là, je sais très bien ce qu'on va me dire. Oui, mais c'est un parti pris artistique, c'est normal, c'est fait exprès. Je suis à 100% d'accord. C'est un parti pris artistique. Pour moi, ça fonctionne dans le cas de Agamemnon, comme je vous l'expliquais, parce que ça raconte quelque chose. Le fait qu'on ne voit pas son visage, l'armure très robotique presque, un petit peu comme si on voulait retirer son âme, ça marche hyper bien. Mais pour le reste, je suis désolé, même si c'est fait exprès, ça n'empêche que je trouve ça parfaitement de mauvais goût. Les décors extérieurs sont quasiment inexistants. On a juste de la nature. Alors ça fonctionne pour les phases d'épopée, les phases d'aventure avec Ulysse, mais les phases de banquet, par exemple, je suis désolé, mais là, j'ai envie de le dire. Où est le budget? Tu regardes le film 3 de l'époque, c'était magnifique. Là, il n'y a pas de décor. Je sais pas où est-ce qu'ils ont filmé ça. Les décors extérieurs, intérieurs, c'est pauvre. Tu demandes où se trouve... Enfin, où est le peuple? Ça fait beaucoup penser à la série Les Hommes de Pouvoir, le fameux village des hommes. Il n'y a personne. Personne. Tu te dis, mais il est où le budget? Alors le budget, je sais très bien où il est passé. Il est passé dans le casting. Le casting marketing. Chez Zendaya, pour qu'elle fasse la pub sur Instagram. Chez Travis Scott. Chez Charlize Theron. Il est passé là-dedans le budget, alors qu'il aurait pu être utile pour autre chose comme les décors et les costumes. Et c'est ça qui m'a énervé dans ce côté réalisme à géométrie variable. Moi, j'aurais dit, ok, pourquoi pas, c'est réaliste. Parce que, effectivement, 3 n'était pas aussi... grandiose hollywoodien que le film de 2004, certes. C'était beaucoup plus proche que la version de Nolan, notamment à l'intérieur, avec des bâtiments cubiques presque ancrés dans le sol. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi tu nous fais des costumes aussi moches? Pourquoi? Pourquoi tu casses la tête à faire du réalisme dans certains points et pas dans d'autres? C'est d'un mauvais goût, c'est fait exprès, mais j'aime pas. Enfin, ce n'est pas pour moi. C'est une inspiration plus viking que grecque. Clairement. On se croirait presque parfois chez les anglo-saxons, mais avec une diversité ethnique, ce qui renforce ce côté gloïboulguesque bizarre. C'est un film qui mélange plusieurs styles, et je n'aime pas. C'est pas pour moi. Voilà, c'est juste pas un style fait pour moi. Les personnages sont pouilleux, mal coiffés, et une fois encore, il me semble pas que les Grecs à l'époque étaient des clodos. C'est même plutôt l'inverse, ils étaient plutôt proches de l'hygiène. Mais ce film ne fait clairement pas honneur à la culture grecque, les coutumes de la Grèce antique, avec les costumes, les décors. Voilà, je peux pas dire que c'est un fiasco, parce qu'encore une fois, c'est fait exprès. Mais l'hypocrisie ambiante, hein, quand je vois qu'on veut absolument respecter toutes les cultures chez les films hollywoodiens, comme bah, là, Vaiana qui respecte la culture de Polynésie. Mais par contre, quand ça concerne la culture européenne, là, on peut se permettre de faire n'importe quoi, c'est un petit peu énervant. Et pour moi, la touche finale, oh mon dieu, c'est la scène des géants, qui était déjà pas bonne à regarder en bande-annonce, mais en film, c'est... La scène des géants, c'est d'un mauvais goût jamais vu. Alors déjà, pour expliquer, pour dire à quel point ça n'a aucun sens, c'est qu'on voit un gamin qui est censé être un enfant géant. Et on a un personnage qui dit... Enfin, on a Ulysse qui dit « Eh, attention, c'est juste un enfant !» Et l'autre, il dit « Mais alors, si c'est un enfant, comment sont les parents ?» Et là, tu dis « Attends, quoi ?» Enfin, ce dialogue n'a aucun sens. Parce que c'est juste un gosse. C'est un gosse avec une armure de géant moche ! Moche ! Une armure de plate en plein âge de bronze. Et dans ce même film, il parle de l'âge de bronze. Aucun sens ! Mais c'est fait exprès, c'est artistique ! Non, c'est la merde, en fait ! Putain ! Ah ouais, je suis choqué, vraiment. C'est pour ça, ce film... C'est comme ça en fait, c'est Dante. Tu prends toutes les meilleures idées de Nolan, mélangées aux pires idées hollywoodiennes, et ça donne ça. Ludwig Göransson, une fois de plus, s'occupe de la musique, et dans le même genre d'Oppenheimer, on a que les sons d'ambiance, qui fonctionnent très très bien pour ce que le film cherche à raconter, avec... Alors c'est un peu répétitif par contre, hein, les roulements de tambour qui montent, et surtout, alors, c'est pas un problème du film, là c'est un problème du cinéma où j'étais, les basses dans ma salle étaient beaucoup trop fortes, c'est le même problème que j'ai eu avec Oppenheimer, beaucoup beaucoup trop fort, les gars, mais testez vos films, vraiment, testez vos films avant de les diffuser. Mais en tout cas voilà, j'ai adoré cette musique, c'est son ambiance, il y a des bruits d'objets parfois, des petits cognements d'objets, des grincements, des clignotements, enfin c'est, ça marche très bien, mais ça accompagne une fois encore l'hypocrisie de Nolan sur ce film, le fait que il ne voulait pas d'instrument parce qu'à l'époque apparemment il n'y avait pas d'instrument. Waouh, c'est réaliste, ça colle très bien aux armures qui... Bon, bref, ça colle très bien, hein, évidemment, avec ses décors, ses armures qui n'ont aucun sens. Oui, tout ça, c'est très réaliste. Bref, j'ouvre une petite partie spoilers avant de conclure. Et je mets évidemment le timer à l'écran. Alors, nous avons Elliot Page au début du film, dans le rôle de Sinon, ou même, devrais-je dire, dans le rôle d'Achille. Enfin, pour le moment, je me suis dit, ok, d'accord, je pense vraiment qu'on a retiré Achille, parce que je pense vraiment que ce personnage, l'acteur Elliot Page, devait jouer Achille. Mais voyant les polémiques, ils se sont dit, bon, à la dernière minute, on va changer, on va remplacer Achille par un personnage fictif qui est Sinon. Je pense vraiment que c'est ça, c'est une théorie, hein. Je pense vraiment que c'est ça parce que, normalement, dans la scène des spectres, on est censé voir Achille. Là, j'ai pas les souvenirs d'avoir vu Achille. Et c'est pour ça que je me dis que, peut-être que je me trompe, quand j'improvise, parfois je fais des erreurs. Peut-être que j'ai mal vu, peut-être que j'étais un peu distrait, ça m'arrive d'être un peu distrait. Peut-être qu'on a réellement vu Achille, mais à la place... Moi, j'ai vu seulement Sinon. Donc, je pense vraiment qu'Elliot Page devait jouer Achille, mais à la dernière minute, ils ont dû remplacer le nom Achille par Sinon pour éviter les polémiques. D'en plus que le personnage de Sinon a de l'importance dans l'avancement, les motivations du personnage principal. Donc, c'est pas un... Le rôle est important, mais il reste quand même assez maigre à l'écran. Parce que, bon, voilà, on est en partie spoiler, je vous le dis, Sinon meurt au début. Chose qui m'a impressionné dans le film, c'est qu'ils ont mis la scène des cochons. Ils assument à 100% le côté magique, fantastique. Je trouvais ça vraiment cool. Mais sauf que ça reste, encore une fois, d'un point de vue terre-à-terre. Et c'est montré, filmé, découpé d'une vision très horrifique. La scène de transformation des cochons est dégueulasse. Tu les vois manger... Ça m'a fait penser au voyage de Chihiro, mais en réaliste. Vraiment, les effets spéciaux sont hyper bien faits. C'est répugnant. Le film assume pleinement son côté fantastique, comme je l'ai expliqué, avec toutes les scènes d'action, la scène des sirènes, la scène... J'ai oublié le nom, là, parce que il doit faire un choix entre soit le tourbillon qui tue tout le monde, soit la créature qui assassine quelques membres de l'équipage. On a aussi la scène des retrouvailles entre Télémaque et Ulysse, que je trouvais vraiment bien jouée. C'est pour ça que je peux pas me permettre de dire que Tom Holland joue mal. Non, pour le coup, il est vraiment très bon dans cette scène. Et nous avons également la scène de la vengeance. Et j'avoue que je ne m'attendais pas à ça. C'est très simple. L'idée est très simple, mais dans le cadre du découpage, ça fonctionne vraiment bien. C'est une scène d'action interminable. J'ai dit au début de ma vidéo, quelques minutes en moins auraient suffi. Là, la scène est très longue, mais elle se veut vraiment spectaculaire. Et avec cette musique, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, paraît un peu répétitif parce qu'on a tout le temps les mêmes roulements de tambour qui montent, qui montent, qui montent. Mais ça parvient à créer tension. De plus, qu'on le veuille ou non, quand on se tape 3 heures de film, la scène de vengeance est vraiment jouissive. Tu l'attends depuis le début, cette scène. Et quand ça arrive, tu dis « Oh yes !» Et en plus, c'est fidèle, encore une fois. Alors certes, c'est pas exactement comme les poèmes d'Homère. C'est logique, ça se veut d'un point de vue beaucoup plus terre-à-terre. Mais les choix artistiques... Enfin, ce que je vais expliquer, c'est que tous les choix artistiques de ce point de vue-là, je les aurais faits à la place de Nolan. Bref, je mets fin à cette courte partie spoiler. C'était donc le film L'Odyssée de 2026 de Christopher Nolan. Enfin, ça y est, je l'ai vu. Je vous ai enfin donné mon avis. Et si je devais résumer le tout en 2 phrases, je dirais dans un premier temps, Nolan n'est tout simplement pas fait pour les péplums. Et c'est pas grave. Voilà. Ce sera pour la prochaine fois avec un autre réal. Dans un deuxième temps, je dirais que ce film est une très belle pièce cinématographique dans un très mauvais péplum. Voilà. C'est un très bon film, mais dans un très mauvais péplum. Ce n'est pas un péplum, c'est un film gloriboulga étrange avec un style qui ne sait pas où aller, une vision qui se perd, un manque cruel d'ambiance et d'identité. Mais ça n'empêche que le film a beaucoup de choses à raconter et il reste également un spectacle relativement impressionnant. Parce que comme je vous l'ai dit au début de ma vidéo, c'est un film d'action. Il n'y a pas de doute. Et je profite de la conclusion pour parler d'un sujet hyper important à aborder. Nolan a étudié plusieurs traductions de l'Odyssée. Il a proposé une interprétation réaliste de la mythologie grecque. J'ai vu ça sur Wikipédia et c'est vrai et faux comme vous avez pu le comprendre dans ma vidéo. Cette phrase n'a de toute façon aucun sens car c'est probablement la moins réaliste des adaptations issues de la Grèce antique. Il n'y a aucun doute. C'est ça, j'ai enfin trouvé le mot. C'est l'immersion. Ce film n'a pas d'immersion. Malgré le grandiose dans les scènes d'action, les décors et les costumes et le côté marketing, ça pète tellement l'immersion, mais un coup de massue dans un mur, c'est du jamais vu. Tout ça qui engloutine le film, qui reste, lui, plutôt bon. Et parmi les nombreuses casseroles que le film s'est traîné pendant la promo, en plus du casting, il y a le fait d'avoir appris que Nolan s'est apparemment inspiré d'une traduction d'une certaine Emily Wilson, comme je vous expliquais rapidement au début. Emily Wilson qui, en 2017, nous a sorti une traduction féministe de l'Odyssée, pour notre plus grand plaisir. Et moi je lui dis, oh, comme par hasard, 2017, le fameux avant et après 2017, pile poil l'époque où le score OIG a explosé. C'est bizarre ça, mais quelle drôle de coïncidence. Pile poil l'époque où on a commencé à nous bombarder de films féminocentristes. Donc si c'est vrai, si Nolan s'est réellement inspiré de cette traduction, eh bien ça soulève quand même pas mal de questions. À qui appartient réellement ce film? Est-ce que ça appartient à Nolan ou à Hollywood? Est-ce que Nolan a réellement eu son mot à dire sur, je sais pas, le choix de casting, de décor, de costume? Est-ce qu'il fait partie de ces réalisateurs dépossédés de leurs œuvres qui ne se comptent plus aujourd'hui, même parmi les plus grands? En tout cas, une chose est sûre, j'ai vu le film et je n'ai vu absolument rien de féministe. Voilà. C'était même essentiellement un film du point de vue masculin, enfin je... Si le féminisme consiste à faire de Penelope un personnage intelligent, ça veut dire que je suis le plus grand des féministes. Je n'ai absolument pas vu de féminocentrice insupportable dans ce film, c'était vraiment normal en fait. Je n'ai pas vu non plus de ouin ouin par-ci par-là, ou alors si c'était là, c'était parfaitement discret. Bref, en tout cas, ce n'est que mon avis, je sais pas ce que vous en pensez. C'est donc un bon film avec parfois quelques vibes, les anneaux de pouvoir, notamment sur la forme parfois, c'est dommage. Mais c'est comme vous l'avez compris, un film que je ne peux pas déconseiller. Franchement, si vous êtes curieux, en fait ça dépend. Je suis vraiment curieux de savoir l'avis des gens qui ne connaissent pas l'Odyssée, qui n'ont pas le livre, les chants, les poèmes, qui ne connaissent rien. Qu'est-ce que vous pensez réellement de ce film? C'est possible que ces gens se fassent chier, parce que 3 heures ça reste long, mais quand tu connais l'histoire, ça passe assez rapidement. Donc voilà, comme toujours, les commentaires sont à votre disposition. Comme à chaque fois, j'y prêterai attention. Avant de nous quitter, je vous rappelle que vous pouvez encore profiter du code PLOTTIME pour obtenir 15% de réduction à durée limitée sur les overpens de Novium avec la livraison gratuite en passant par mon lien en description ou en scannant le QR code à l'écran. Et avant de nous quitter, une fois encore, je le redis, n'oublie pas de cliquer sur le bouton d'abonnement. Lui, pour le coup, est gratis. Likez la vidéo pour la booster dans l'algorithme. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.